Par Laurier et le boulevard des Galeries.
Boulevard 102, c'est votre radio rock. Merci d'être là.
Le plan du rock.
On est de plus en plus nombreux à avoir du fun.
Ben, parce que vous êtes les meilleurs au monde.
J'adore 102!
Il
n'y
a rien de mieux que 102-1 et son équipe de fou.
102-1.
Parce que vous êtes la meilleure radio au monde!
Boulevard 102-1. Boulevard 102-1. Bienvenue chez vous. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Salut, bonsoir. Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102 à Québec en espérant que vous ayez passé une belle journée. On va certainement passer un excellent 60 minutes ensemble puisqu'on va parler avec un routier, Benoît Terrien, de la belle gang de Truck Stop Québec. Je vous invite à aller vous ajouter sur leurs réseaux sociaux ainsi que d'aller voir sur leur site Internet. Ils ont beaucoup de choses à vous présenter, la belle gang de Truck Stop Québec. Benoît qui est sur la route présentement. Salut mon ami, t'es là?
Salut Yannick, ça va bien toi?
Ben oui, ça va bien. Puis je sais que t'es un gars occupé, mais pour les besoins de la cause, tu sais quoi, nos auditeurs vont comprendre que tu fais une entrevue téléphonique présentement.
Ouais, normalement, on se parle quasiment nez à nez, faute d'avoir eu le temps de pouvoir préparer le studio ou d'avoir été te voir. Mais la prochaine fois, je te promets, je ne te quitte point.
Ne me quitte pas, ne me quitte pas. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit.
Faire travailler celle-là a besoin d'un petit travail de montage.
Ben oui. Avez-vous célébré un membre du Ku Klux Klan dernièrement? Quelqu'un, un genre de descendant d'Hitler ou, je sais pas moi, un genre de Manson là, t'sais, qu'on pourrait célébrer. Vous faites ça dernièrement chez Truck Stop Québec?
Ah Yann, cette histoire-là, là, depuis quelques jours, là, a fait couler en masse d'encre, puis a fait parler en masse de monde. Je ne sais pas, on a peut-être, faudrait qu'il y ait quasiment 90 ans là et plus, mais on a quelques spéciaux dans notre industrie, là,
ouais.
Mais de là à ce que ça soit des gens qui, je vais peser mes mots, là, mais qui ont participé à des calvaires envers d'autres communautés, tu sais. J'espère jamais être obligé d'applaudir ce genre de personnes-là.
Ouais, tu sais, puis moi, depuis que je suis né, je suis très fier d'être Canadien, je suis très fier d'être Québécois, mais celle-là, j'ai l'impression qu'on va s'en souvenir longtemps, puis quand on va se promener à travers le monde, peut-être des gens qui vont en entendre parler, parce que cette nouvelle-là a fait le tour du monde très, très, très rapidement, de célébrer un nazi, je veux dire, ça s'est-tu vu ailleurs, tu sais, que ailleurs que chez nous? Écoute, je surveille l'actualité. Je pense que c'est la première fois que ça arrive en 40 ans de vie que je m'aperçois qu'on a célébré un nazi. Là. Ça n'a pas de bon sens.
Ben, c'est parce que c'est une bourde incroyable. À partir du moment que, tu sais, on est des camionneurs, on n'est peut-être pas à l'abri de ça, mais sauf que du moment où ce que on présente une personne et que c'est amené par le président de la Chambre, tu te dis, OK, ben j'imagine ça a l'air crédible, mais c'est parce qu'il n'y a pas un travail de recherche qui est fait avant. Tu sais, toi, tu prépares notre chronique, tu fais de la recherche, tu regardes un peu partout, mais il y a pas, c'est pas fait à nulle part. On a de l'air, pour pas répéter ce que l'ancien maire de Montréal a dit, mais on a de l'air d'une gang de clowns, puis même qu'on se sert de ça partout dans le monde maintenant pour éclabousser le Canada. Moi, là, tu sais, je ne demanderais pas mieux que d'aller en élection, faire oublier tout ça. Puis même partout dans le monde, ils diraient, bon, OK, même le premier ministre a démissionné pour aller. Puis si on vote Trudeau, ben là, on n'est pas mieux que mort, là. Mais en tout cas, personnellement, moi, je pense que on devrait tout de suite mandater une date d'élection puis aller en élection. De toute façon, je pense que il y a un écœurantite aigu au sein de la communauté, au sein des Canadiens et des Canadiennes. Puis je pense qu'actuellement, ben, il y a d'autres options. Ce qu'elles sont meilleures, on le verra avec le temps. Mais tu sais, même nous autres, là, les rapports commerciaux qu'on a avec nos d'autre côté de la frontière, nos Américains, ben eux autres, là, tu sais, on a beau être des camionneurs, on a beau être des professionnels, mais rappelons-nous quand il y a eu les attentats en 2001, comment qu'on a vécu le calvaire de traverser la douane, les longues périodes d'attente. On fouillait tout.
Ouais.
Et avec raison, on avait été à passoire des Américains pour emmener les terroristes vers les tours. Fait que là, on a de l'aide d'une gang de clowns. Je vais peser mes mots. On a de l'aide d'une gang de clowns actuellement.
Écoute, cet après-midi, on a eu cette nouvelle-là, là, comme quoi le président de la Chambre, Anthony Rota, a finalement donné sa démission. Est-ce que ça va être suffisant? Je sais pas. Je pense pas que Justin Trudeau ait un avantage là, à aller en élection maintenant, alors qu'on sait très bien quand on regarde les sondages, si les élections avaient lieu demain, Justin Trudeau et sa bande seraient relégués aux oubliettes et ce serait le Parti conservateur qui prendrait le pouvoir. Donc, je ne crois pas que ça pourrait servir d'élément là, qui fasse en sorte que Justin Trudeau dise « Ah, là, j'en ai assez, on s'en va en élection. » Mais cela dit, est-ce que ça va se répercuter sur le gouvernement libéral? Je pense que oui. Mais Anthony Rota a finalement annoncé sa démission. Il ne faut plus jamais que ce genre d'erreur-là se produise chez nous. Ça en est gênant. Hey, parlant d'autres choses qui est gênant parfois, quand je regarde les « woke », puis les woke, j'en parle pas bien à Québec, là, mais il y en a beaucoup des woke à Montréal qu'on appelle les éveillés. Puis eux, ben, ils veulent changer le monde. C'est pas mal quand tu veux changer le monde en passant, mais à leur façon à eux, je trouve ça des fois particulier. Et de voir à quel point ces gens-là, ces woke-là, qui sont souvent munis d'un téléphone cellulaire Apple, considèrent les camionneurs, je trouve ça très particulier. Ces gens-là veulent éradiquer les camionneurs sans penser aux conséquences que ces gens-là pourraient avoir, dans le sens où, écoute, tout ce qui t'entoure et a été livré par un camionneur ou une camionneuse, tu sais, à mes yeux, à moi, tu devrais peut-être avoir plus de respect pour les gens qui transportent les choses que toi tu as aujourd'hui. Et ces gens-là, ben, utilisent leur propre cellulaire, qui est arrivé par camion pour chier sur les camionneurs. Des fois, je me dis, ça doit vous choquer à l'intérieur, tu sais. Toi, tu as la chance de jaser régulièrement avec des camionneurs, t'en es un aussi, des camionneuses. Des fois, les gens, ils se disent, voyons, pourquoi on fait ce métier-là? On fait pas ce métier-là pour les andouilles comme les woke, là.
Ben, c'est parce que, tu sais, il y a une lubie depuis un bout, Yann, c'est que, bon, on sait qu'on veut être plus vert que vert, puis on sait pertinemment que, bon, on essaye de faire mal aux automobilistes, on essaye de les empêcher de circuler, d'aller, tu sais, c'est une forme de liberté que d'avoir un auto ou une moto ou peu importe. Un camion, c'est une nécessité. Si vous achetez rien, il n'y en aura pas de camion. Puis dernièrement, on ajoute à cette lubie-là un groupe d'environnementalistes là, qui, eux autres, disent pour freiner le nombre de camions qu'il y a sur les routes, ben, il faudrait ajouter une taxe kilométrique. Sauf que ces gens-là ont certainement pas compris que tout ce que vous savez a nécessairement passé par un camion. Du point A au point B qui est chez vous. Ça veut dire que si on veut ajouter une taxe kilométrique, dernièrement, le gouvernement canadien a fait venir à Ottawa les géants de l'épicerie, de l'industrie de l'épicerie, en leur disant comment est-ce qu'on pourrait baisser les prix, comment est-ce qu'on pourrait baisser le coût de l'épicerie. Bien, la taxe carbone, on l'enlèverait à l'industrie du camionnage. On pourrait peut-être enlever un fort pourcentage, un sous à peu près qu'on peut calculer du mille ou du gallon, du litre, pardon. Je suis encore en américain, moi. Mais techniquement, si on enlève 10 sous du litre en taxe, ben, nous autres, l'industrie, on ne la refile pas au receiver, à l'expéditeur. Ce qui fait qu'eux autres ne la refilent pas à l'épicerie, puis l'épicerie ne la refile pas chez vous. Puis quand on refile une facture, ben, faut prendre une cote dessus. Si je refile 10 sous à quelqu'un, ben, je vais peut-être facturer 12, 13, 14 sous parce que j'ai de la gestion. Pas gratuit, faire de la gestion. L'autre va leur partager à quelqu'un d'autre ce frais-là. Puis ça se peut qu'en bout de ligne, ben, c'est 20 à 25 sous qui arrivent sur une canne de produit quelconque. Fait que ça se traduit par l'assiette. On veut baisser le coût de l'épicerie. je m'excuse, là, tu sais, je veux pas prendre la défense des épiciers qui l'ont eu facile dans les dernières années, sauf que celle-là est encore plus facile parce que les gouvernements ont posé, puis en imposant quelque chose, ben, faut vivre avec. Là, imaginez que je vous rajoute, parce qu'il y a 1000 kilomètres entre le produit que vous avez acheté et votre destination, que je rajoute, je sais pas, moi, ne serait-ce qu'un sou ou deux sous du kilomètre. Bien là, je viens de te charger une taxe de plus, mais moi, j'ai des frais de gestion. Fait que la taxe plus frais de gestion plus la taxe carbone, est-ce qu'on pourrait pas respirer à un moment donné? Puis la classe moyenne sont souvent des gens qui vont commander en ligne parce que avec des enfants puis avec la vie d'aujourd'hui, on a moins le temps d'aller à l'épicerie, d'aller chez une grande surface, d'aller acheter. On regarde en ligne, on le trouve à un prix qu'on a de l'allure, ben let's go, on achète, on commande, on sait que ça va être livré chez nous, au bureau, et tout le monde est heureux, là. Mais de là à vouloir nous imposer une taxe, l'industrie du camionnage, par l'Association du camionnage du Québec, est sortie de ses gonds en disant « Voulez-vous nous ficher de patience pour un bout, là? » Ça fait assez d'années qu'on fait sur l'industrie du camionnage qu'on essaye d'imposer toutes sortes de taxes, peu importe, là. Parce que un camion, là, quand on paye ça au pommeau 300 000 $ ben, il y a une taxe qu'on va donner là-dessus au gouvernement. Je vais acheter une remorque qui est entre 50 et 75 000 $ je vais payer une taxe que j'envoie au gouvernement. Chaque litre de carburant diesel, ben, je vais avoir une taxe carbone dessus, des taxes provinciales et fédérales que je vais refiler au gouvernement. Puis on a une espèce de fausse taxe kilométrique qui existe en Amérique du Nord qui s'appelle le IFTA. L'IFTA, c'est un genre de consortium qui, eux autres, bon, ben, selon ce que tu as consommé en carburant versus que le kilomètre que tu as parcouru dans une province ou un État, ben, tu me dois peut-être 0,002 sous du kilomètre ou du mille parcouru. Fait qu'on l'a déjà, en quelque part, cette forme de taxe-là, puis est calculée, bon, c'est un calcul qui se fait assez rapidement quand on a des logiciels, mais qui permet d'envoyer un chèque dans tel état, d'envoyer un autre chèque dans tel état, puis on le paye pareil. Rajoutez-nous des taxes, bien, qu'est-ce que ça va faire? Ça pousse sur ta facture à toi, sur ma facture à moi. Nos salaires n'augmentent pas dans l'industrie nécessairement à cause de ça. Nos conditions n'augmentent pas nécessairement dans l'industrie parce qu'on voit un petit peu la lumière au bout du tunnel. Le gouvernement nous impose une taxe. Fait que pour l'entreprise de camionnage qui est toujours entre l'arbre et l'écorce, elle dit, moi, j'aimerais ça donner 2 piastres du mille à mes chauffeurs. Actuellement, les salaires tournent en 45 sous du mille et, mettons, 71,5 sous du mille ou des 25, il y en a en bas, là, mais des 25 à 32 à 34 $ de l'heure. Bien, on aimerait ça avoir 50 piastres de l'heure. On aimerait ça avoir, je sais pas, moins 95 sous du mille. Mais on dirait que le gouvernement est toujours à l'affût, puis il vient nous mettre les bâtons dans les roues. À nous, camionneurs, aux entreprises de transport qui essayent de sortir un petit peu la tête de l'eau de tout ce mélange de taxes-là, puis le client aussi qui n'a pas nécessairement le goût de recevoir une taxe ou une facture de plus, ils ont déjà reçu, durant la COVID, l'espèce de surcharge de carburant qui était de l'ordre de 90, 92, 95 selon les destinations. Fait que si tu payes 1000 piastres de transport, puis je t'envoie 90 de surcharge de carburant, ben le 1000 $ est rendu à 1900 $ Fait que tout le monde a payé, là. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un petit break? On pourrait pas avoir un petit peu de lousse dans notre industrie? Au lieu de toujours chercher une taxe puis toujours essayer de nous en mettre un peu plus sur la tête.
Ouais, puis de percevoir les gens qui font du camionnage comme des alliés plutôt que des gens qui causent des problématiques. Tu sais, j'ai la chance des fois de jaser avec vous autres chez Truck Stop Québec, mais il y a aussi des camionneurs qui nous écoutent à Québec, à Boulevard 102.1. Puis il y a des camionneurs qui sont livreurs aussi, là, de ce que je comprends, et de plus en plus, quand ils vont livrer à Montréal ou quand ils vont livrer à Québec, éprouvent des difficultés à se stationner stationné. La police embarque dans la danse en disant, ben là, tu t'es stationné là, il y a une piste cyclable proche, c'est un no parking, tu peux pas rester là. Et là, le camionneur dit, oui, mais moi, il faut que je livre aux restaurants qui sont là, là, tu sais, c'est les restaurants locaux. Donc, la ville essaye de compliquer le plus possible la vie des camionneurs en ville, ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, il n'y aura plus personne qui va vouloir se promener en ville pour faire des livraisons. Écoute, si la ville ne veut pas de toi, c'est tout à fait normal que tu refuses d'aller dans ce secteur-là. Qui va rester pour faire des livraisons? Est-ce que, je pense que c'est Valérie, j'aime bien l'appeler par un autre nom, là, mais mettons Valérie Marchand à Montréal et Bruno Plante à Québec. C'est-tu eux autres qui décident de vous faire la vie dure? Puis il n'y a pas moyen de négocier avec ces gens-là en leur disant, ben nous, faut exister, sans quoi vous ne serez pas ravitaillés, là.
Ben, tu sais, Yann, en tout cas, moi aussi, je sortirais bien des qualificatifs ce soir juste pour ça. C'est une chose, OK? C'est qu'actuellement, notre industrie est la cible de bien des groupes, notamment les maires des villes. On dirait que c'est payant pour eux autres de dire on n'aura plus de camions. À chaque hiver, maudit camion, il a frappé un piéton. Parce que c'était un camion de déneigement ou, un camion est passé dans le centre-ville de Québec pour aller livrer quelque chose, puis malheureusement, il y a eu un décès, tout ça. Ce qu'on sait toujours pas dans ces histoires-là, c'est que comment c'est arrivé, est-ce que le piéton avait le nez dans son cellulaire, puis il n'a jamais regardé, puis il n'a jamais checké si la lumière était pour traverser la rue ou pas, mais il l'a traversé, puis il est arrivé un camion. Mais rajoute au maire et à la mairesse des grandes villes de Montréal, d'autres villes là, qui commencent à sortir un petit peu du lot, là, Gatineau, dont la mairesse de Gatineau, qui commence elle aussi à trouver qu'il y a beaucoup de pollution, tout ça. C'est correct de penser là-dessus. T'sais. Moi, je ne les enlève pas de goût de penser quoi que ce soit, mais il faut rajouter des partis politiques qui trouvent ça payant que de parler contre l'industrie du camionnage. Il y a des groupes environnementalistes qui sont carrément contre nous autres. Puis pourquoi moi, quand je vais voter pour un maire ou une mairesse, puis qu'elle m'a pas dit ou il m'a pas dit dans son programme que le but de l'exercice, c'est de trouver le moyen de ne plus avoir un maudit camion sur l'île ou dans une région X, bien, je voterais pas pour ces gens-là. Je trouverais... On dirait qu'à cette heure, on cache un petit peu notre agenda, puis on veut faire mal paraître l'industrie. Les Amazones de ce monde, pour ne pas les nommer, ont une flotte de camions de sûrement plusieurs milliers de petits camions à travers l'Amérique du Nord. Ils sont nécessaires, pourquoi? Parce que, Amazon redistribue tout ce que vous achetez par des entrepôts assez locaux. On a dans la majorité des grandes villes pour pas être obligé d'avoir du stock dans les remorques. Fait que les remorques vont dropper, on place ça, c'est des robots la majorité du temps qui vont chercher ça. Et après ça, ben c'est livré dans des petits camions. C'est sûr qu'un petit camion, ça a l'air moins imposant que le gros camion. Mais comment je peux aller livrer à côté du Centre Bell pour ceux qui y vont de temps en temps? Il y a une épicerie qui est au deuxième étage. Je ne peux pas aller livrer là avec le petit Econoline, le petit camion difficile de livraison de courrier. Je suis obligé d'y aller avec peut-être pas la 53 pieds, mais ça m'aide à emmener beaucoup plus de matériel en même temps. Je peux y aller avec un 26 pieds ou quelque chose comme ça, mais je vais être obligé d'en faire plusieurs pour accommoder ce qui sort. Tant qu'à bâcher contre l'industrie du camionnage, puis tant qu'à nous prendre à partie, pourquoi, comme tu dis, puis t'as bien ciblé ça, pourquoi ne pas tout simplement dire on va s'organiser ensemble, puis on va trouver une alternative. Il y a quelques années, moi je me rappelle, quand j'ai commencé dans l'industrie, on voulait nous imposer d'aller livrer sur l'île de Montréal à partir, disons, de 23 heures. Ben oui, mais le monde chiale parce qu'ils entendent le gros camion, puis sachez que le vaissellier qu'il y a dans leur appartement, parce qu'il y a un gros camion qui passe, puis on entend les ce qu'on appelle les reefers, là, les remorques réfrigérées.
Oui.
Ben, quand on circule au dock, puis qu'on entend le moteur virer sans arrêt pour maintenir les légumes à bonne température, je peux comprendre que c'est désagréable. Mais d'un autre côté, c'est un peu comme dire, bon, mais je suis déménagé à côté de l'aéroport, puis moi, je suis tanné d'entendre des avions. Mais c'est parce que tu le savais avant d'arriver là. Fait que si vous avez une épicerie à côté, ça se peut que ça soit ébruyant. Puis si vous n'en voulez pas de preuve, je le répète, là, c'est bien simple, arrêtez de consommer. Si vous arrêtez demain matin de consommer, il n'y en aura plus de camions, mais c'est impossible d'arrêter de consommer. On a tous une épicerie à faire. Peu importe aussi si vous avez un auto électrique un jour à vous acheter, elle n'arrivera pas par le Saint-Esprit chez le détaillant d'automobile. Il va falloir qu'un camion la charge sur une remorque, l'amène. Mais voulez-vous payer votre véhicule 500$ de plus pour une taxe kilométrique? Voulez-vous payer votre épicerie peut-être 500$ de plus annuel parce qu'on aura une taxe kilométrique? Ce qui va arriver à un moment donné, c'est que bon, on va le faire, le transport, mais à quel coût vous êtes prêt à payer au nom de l'environnement pour avoir la belle pensée de dire on est vert, on n'a pas, on pollue pas, on dépense pas de taxes de carbone, on est green. Ah oui, mais arrête de consommer, prends même pas de pinte de lait parce que de la vache à ton réfrigérateur, ça a été transporté par un camion jusqu'à l'usine. À l'usine, on l'a transformé, on l'a pasteurisé, on l'a envoyé chez vous à l'épicerie, mais ça a pris du transport. Fait que si vous avez la merveilleuse idée un jour de nous imposer ça, ben il faudra être, dans le fond, consentant à recevoir des prix à la hausse dans tout ce que vous allez consommer par la suite. Puis c'est pas vrai qu'à un moment donné, même si vous commandez en ligne, peu importe la compagnie qui livre, vous imposera pas une surcharge pour aller livrer le matériel chez vous.
Ouais, puis tu sais, Ben, je pense que c'est avec vous autres que j'en avais déjà jasé, puis c'est peut-être même toi qui m'est arrivé avec un calcul, mais ce que Valérie Marchand avait dit à Montréal, c'est que on pourrait peut-être prendre des plus petits camions, donc pas prendre le gros truck là qui traîne la remorque derrière, mais des plus petits camions. Et là, toi, je pense que tu m'avais fait un calcul, tu sais, pour une vanne, ça prendrait peut-être 3-4 petits camions, puis ça consommerait encore plus que si c'était juste la vanne. T'sais, c'est pour dire à quel point ces gens-là parlent, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent, sont incapables de calculer, puis surtout, ils consultent pas l'industrie du transport.
C'est assez facile à comprendre, Yannick, que dans une remorque normale de 53 pieds, il rentre sur le plancher, pas doublé là, une par-dessus l'autre, 22 palettes, OK? Bien placé, tout ça, puis bien équilibré pour le poids, parce que, bon, je vous apprends pas qu'en camion, je peux pas avoir trop de poids sur l'essieu arrière parce que je vais être intercepté, puis je vais devoir payer une infraction à ça, mais 22 palettes. Ça veut dire que si je prends un camion 26 pieds, qui va être la moitié d'un 53 pieds, mais il va quand même manquer un petit bout, bien, je vais être capable de rentrer bah, la moitié des palettes. Ça va me prendre deux straight body. Les straight body, c'est souvent les camions de livraison avec un double essieu arrière. Mais ce que Mme Plante voulait, Mme Marchand, voulait, ben, c'est avoir encore des plus petits camions. OK. Un plus petit camion, on va parler à ce moment-là d'un camion cube, ce qu'on peut identifier comme un camion de déménagement. Ben, je vous apprends pas qu'il va rentrer 4 palettes là-dedans, peut-être 6 bien tassées. Et par le poids, des fois, ces camionnettes-là sont pas assez bonnes, puissantes ou fabriquées dans le but d'avoir 6 palettes, disons de, je sais pas, 2000 livres chaque de poids, ce qui fait qu'on pourra pas en transporter autant. Un camion peut consommer dans une ville peut-être entre 30 et 50 litres au 100 km. Pourquoi? Parce qu'on est souvent arrêté, on part, l'accélération, la consommation, tout ça. Fait que un petit camion comme ça, qui va nécessairement consommer plus, puis qui va être arrêté à tout bout de champ, on n'aura pas avancé. Mais là, ajouter, ça veut dire s'il rentre 6 palettes dans un petit camion comme ça, ben, pour arriver à 52, c'est pas compliqué, ben, il faudra avoir au moins 8 camions pour aller tout livrer le chargement. Est-ce qu'on a gagné en termes d'environnement?
Encore plus de véhicules sur la route.
J'ai pas compris, Yann.
On n'a pas gagné au niveau de l'environnement et ça fait encore plus de véhicules dans le trafic.
véhicules. On est une industrie qu'on a énormément besoin de chauffeurs. Il manque au bas mot entre 20 et 25 000 chauffeurs pour combler tout ce qu'il y aura à combler dans notre industrie. Là, multiplie par 7, par 8 le nombre de camions que ça prendrait pour faire plaisir à des élus municipaux. Je ne sais pas où est-ce qu'on va prendre ce monde-là. Là. Puis quand le... Parce que là, en ayant 7 véhicules, 6, 7, 8 véhicules pour aller transporter la même marchandise, ben il y aura un coût à ça. Tu sais, je paye un chauffeur. Tandis qu'avant, j'aurais payé un chauffeur 22 palettes. Là, je paye 8 chauffeurs pour les mêmes 22 palettes. J'ai rien gagné là-dedans, même que l'entreprise, ça y a coûté plus cher. À qui la facture est refilée? Encore à la classe moyenne. Puis la classe moyenne, c'est vous et moi. Fait que j'ai pas besoin de vous apprendre que je suis pas comptable, mais je suis persuadé que vous aimerez pas la facture qui va venir en bout de tout ça, là.
Ouais, c'est clair que non. C'est clair que non, mais ce qui me frappe à chaque fois, Ben, c'est de voir que ces gens-là, qu'on met au pouvoir, qu'on considère comme des gens qui ont quand même un QI au-dessus de la moyenne, là, ce qui me sidère, c'est de voir que ces gens-là, avant de se prononcer sur un sujet, vont même pas s'informer. Ou encore, font comme moi, tu sais, moi je veux en savoir un peu plus sur l'industrie du transport. Mais aller jaser avec la gang de Truck Stop Québec, moi jaser avec des camionneurs, des camionneuses pour savoir comment ça se passe sur nos routes pour nos camionneurs, camionneuses. Je dirais pas devant les médias sans aucune information, puis je dirais pas n'importe quoi comme ces gens-là ont tendance à le faire. Puis tu sais, j'inclus le maire Marchand aussi, puis j'inclus la mairesse Plante. Ces gens-là ne savent souvent pas de quoi ils parlent. Et quand on met deux pistes cyclables chaque côté de la route, qu'on réduit l'accès pour les automobilistes, bien, on se rend compte très rapidement qu'ils n'ont pas pensé aux livraisons locales pour ce qui est de nos commerçants, puis ils n'ont pas encore moins pensé au pauvre camionneur qui va devoir risquer de prendre un ticket ou de se parquer dans un endroit où il n'a pas le droit pour pouvoir faire sa livraison. Je trouve que vous l'avez dur ces temps-ci, Ben.
Bien, les livreurs qui vivent dans des établissements avec plusieurs étages, que ce soit à Québec ou à Montréal, effectivement, t'es souvent parqué en double ou t'es parqué dans un endroit où t'as pas d'affaires là, mais où est-ce que, c'est quoi l'autre option? Là, pas l'autre option. Donc, souvent, ce que les entreprises font, c'est amène l'étiquette à la fin de la journée, puis à un moment donné, on dealera ça avec l'expéditeur pour essayer de s'en faire enlever un peu. Mais c'est sûr que c'est pas facile. Mais là, il y a quelque chose, moi, depuis un petit bout, là, qu'il y a quelques journalistes, je dirais pas plusieurs, mais des grands médias de ce monde qui nous téléphonent et aimeraient voir le quotidien d'un camionneur sur l'île de Montréal. Là, il y a quelques reportages qui vont passer ici et là dans les prochains jours ou prochaines semaines. Mais est-ce qu'il y a des gens assez allumés dans les médias qui se sont dit, bon, peut-être qu'avant d'acquiescer à ce que les élus municipaux demandent, on pourrait peut-être aller voir c'est quoi le quotidien d'un camionneur dans la région de Montréal. Puis c'est spécifiquement là qu'on demande à aller faire un genre de mini-reportage. Puis j'en ai fait un, là, pas plus tard qu'il y a 3 semaines. J'aurais pensé qu'on se serait fait peut-être planter parce que, bon, des fois, il y a des agendas qui sont un peu cachés. Puis qu'on dit, bon, ben regarde, on va aller, puis on va embarquer avec un camionneur, puis c'est pas si pire que ça, ça se fait super bien, puis bon, il faut avoir les qualités requises pour conduire un camion dans le trafic, mais c'est quand même pas si pire que ça. Non, à date, ce qu'on a sorti, c'est vraiment le côté difficile de la job, un peu comme on en parle ce soir, puis ces journalistes-là se sont réellement, moi, celle qui embarquait avec moi, s'est vraiment intéressée à l'industrie. Puis quand elle a fait le reportage audio, ben elle a dit vraiment, je salue le travail de ces hommes et ces femmes-là qui quotidiennement, ben l'ont pas facile parce que les automobilistes les prennent à partie. Ben puis j'ai pu parler de taxes avec la journaliste, j'ai pu parler aussi des contraintes des élus municipaux en essayant de couper toutes les voies, mettant des no-trucks à peu près partout sur l'île de Montréal. Puis elle comprenait après, puis tu sais. J'ai dit, des fois, tu sais, tu te dis, ces personnes-là, est-ce qu'ils comprennent réellement toute l'ampleur de ces décisions-là? Fait que quand j'y ai dit, j'imagine que tu commandes en ligne ou sais, du linge ou peu importe, elle dit, ah oui, elle dit, je suis friand du commerce en ligne, tout ça. Pourquoi? Parce que ben, ça m'aide à ben, avoir un agenda peut-être moins chargé. Puis j'ai dit, regarde, j'ai dit, la journée que tu arrêtes de commander en ligne, il n'y aura plus de camions dans ton secteur, puis il n'y aura plus de camions à Montréal. Ça a tout de suite changé le discours, même si je pense qu'il était trop camionneur, mais elle a quand même été ouais. Ben, probablement séduite par ce terme-là. Ben, elle l'a répété 2-3 fois en ondes. Puis, écoute, l'animateur, il donnait pas ça facile. Là, on, il est reconnu pour étant un des très pro-environnement. Aussitôt qu'on peut lui mettre le terme pollution en bouche, là, il y a une forme de satisfaction. Puis, fait que quand elle a dit, elle dit, ben, on a juste à pas acheter, puis il n'aura plus de camion. Ça lui a coupé le bec. Là, c'était vraiment beau à voir et à entendre.
Ouais, puis tu sais, mais ça me surprend toujours de voir des gens qui, parce que la journaliste que tu as rencontrée, c'est pas une journaliste qui a 18 ans, là, c'est une journaliste d'expérience qu'on peut entendre au 98.5 Montréal. C'est Marie-Ève, je perds son nom de famille là.
Tremblay.
Faut la féliciter pour sa curiosité, puis tu sais, le travail qu'elle a fait, c'est-à-dire qu'elle est allée te rencontrer, vous avez fait une journée de camionnage, elle t'a posé toutes les questions qu'elle avait à poser, puis là, elle a réalisé certaines choses, puis par la suite, est-ce qu'elle a rapporté intégralement tout ce que tu lui as mentionné, Ben, ou elle en a rajouté un petit peu?
Non, elle n'a pas rajouté, elle en a même enlevé sur le fait que ben, tu sais, j'ai expliqué, parce qu'en camion, il y a des choses qu'on voit. Là, c'est quoi vous voyez? Ben, j'ai dit, des fois, ça arrive que madame gâte monsieur, puis... fait qu'elle a coupé des bouts de ça, ouais. Là, tu sais.
Ou monsieur, mais, ou monsieur se gâte seul dans son véhicule.
Oui, mais, tu sais, elle a été témoin, il y avait quelqu'un... C'était drôle, Yannick, tu sais, parce que... Écoute, on est au volant, puis à notre droite, sur le côté passager, écoute, elle est à peu près bon, 4-5 pieds plus haut que le véhicule qui est à côté d'elle. Elle dit, mon Dieu, elle dit, il n'y a même pas les mains sur le volant. Il y a une sandwich dans une main. L'autre, il y a le cellulaire, puis il y a une cigarette à la bouche en plus. Elle dit, lui, elle dit, c'est le phénomène parfait de dire qu'il n'est pas concentré sur la conduite. Ah, mais c'est ça, pas nouveau, c'est chose courante, puis ça arrive régulièrement. Cellulaire au volant, là, tu sais, on a beau dire ce qu'on veut, puis on a beau faire toutes les démarches possibles pour essayer d'enrayer ça, mais moi, je pense que on sera jamais capable. L'alcool au volant, on était capable de enlever un bon bout, mais le cellulaire au volant, moi, j'ai l'impression que c'est comme un troisième bras pour la majorité des gens. Puis que cette technologie-là, aussitôt que ça fait tong, ah, faut absolument, faut que je regarde c'est qui, puis ça doit être urgent. Puis on dirait qu'on n'est pas capable de dire, ben, je répondrai dans une heure quand j'arriverai au travail ou à la maison, tout ça. Non, faut absolument, absolument être rapide, puis ah oui, puis en même temps, ben, je vais y répondre. Le temps que j'ai le nez, les yeux sur mon cellulaire, c'est pas tellement long que je peux avoir perdu l'équivalent de 2 terrains de football. Là. Ouais. Puis, mettons que vous avez 6-7 secondes où vous n'avez pas les yeux attentifs sur la route. Imaginez que ça freine brusquement en avant de vous autres. Ça se peut que vous bloguiez dans le derrière d'une remorque de troc ou dans un véhicule.
Oui, puis je serais curieux, Ben, de savoir si on a déjà fait des modélisations, puis si on a déjà fait des études sur l'impact du cellulaire à la main au volant dans le trafic. Parce qu'il y a tout le temps comme 1 seconde, 2 secondes de retard quand on regarde ton cellulaire. Là, faut que tu screen un peu pour ce qui est de tes courriels, pour ce qui est de ton... je sais pas, moi, tu regardes pour aller voir ton agenda, ces affaires-là. T'as tout le temps comme 2-3 secondes de retard. Puis après ça, tu regardes. Puis là, le char en avant de toi, il est déjà parti. Mais si vous êtes, si vous êtes 3000 personnes sur cette autoroute-là, puis il y a 30 % des gens... Est-ce que j'exagère quand je dis à peu près 30 % des gens qui sont sur leur cellulaire dans le trafic?
Je dirais que le matin ou le soir, c'est pas mal, même pas assez généreux. Il y a plein de gens qui ont le cellulaire en main. Puis surtout le fameux socle là, qui est toléré par la loi de mettre sur l'espèce de sortie de ventilation. Ouais. Tu as ton cellulaire qui est supposé servir de GPS, mais que clairement, tu vois les messages textes qui sont là. Fait que mon 30%, c'est très conservateur. Bon,
mettons,
il y a énormément de gens.
Mettons 40. Mettons 40 pour les besoins de la cause, Ben. Là. Il y a 30 à 40% des gens qui sont sur leur cellulaire dans le trafic puis qui perdent 2-3 secondes à chaque fois que ça fait un stop and go. T'imagines-tu en bout de ligne le temps qu'on perd en raison du fait qu'il y a 30-40% des gens qui sont sur leur cellulaire? Ça, je serais curieux de voir le modèle. T'sais, qu'est-ce que ça donne concrètement quand on regarde ça sur des graphiques puis versus aussi en temps? Ça, on perd-tu, je sais pas moi, 30 minutes dans le trafic quand on est à Montréal, à Québec? Est-ce qu'on perd 10 minutes dans le trafic en raison...
Plus.
C'est une bonne question. Je sais pas. C'est une bonne question.
Le week-end dernier, le fameux pont de Lizy, là, où tout le monde était... on est passé de trois voies à une voie. Là.
Oui.
Imagine que t'as le nez dans le cellulaire, c'est arrêté, puis comme tu dis, là, tu te lèves la tête, puis je sais pas, moi, le véhicule qui te précède a déjà 200 pieds, 300 pieds d'avance sur toi, ben ça prend 2 à 3 secondes. Le véhicule en arrière, 2 à 3 secondes. L'autre en arrière, 2 à 3 secondes. Mais combien de fois par année, Yann, tu es obligé de klaxonner après un véhicule que la lumière vient de transférer au vert, puis qui avance pas et qui bouge pas, et tu vois pertinemment que la tête est penchée vers les cuisses et qu'il est clairement... La personne est au cellulaire.
Ouais.
Ça peut m'arriver au moins une fois par deux semaines facile.
Ouais, moi, ça m'arrive.
Ouais, ben, à un moment donné, c'est parce que il est encore sur le cellulaire. Moi, ben, à un moment donné, il part. Je dis, ben, OK. Je ne guérirai pas après. Là, mais généralement, là, c'est des affaires qui arrivent. Mais je serais curieux de sortir le modèle que tu parles. Puis peut-être qu'on aurait des chiffres assez popés. Puis dans ce temps-là, tu sais, bon, peut-être que. Quand tu es arrêté, puis ça bouge pas, puis ça fait 10 minutes que ça bouge pas, je peux comprendre que tu sortes ton cellulaire pour voir s'il n'y a pas un accident quelque part. Mais quand ça bouge le moindrement, ôte tes yeux sur le cellulaire, puis avance. Moi, quand j'ai suivi ma formation de camionneur, on me disait tout le temps, ce qui compte, là, c'est clair le chemin. C'est ça qui compte. Arrête de bloquer tout le monde quand tu es un camionneur. Là. Ben, automobiliste aussi, clair la route. Arrange-toi pour que ça soit carrément fluide et que tu bloques personne, là.
Ah, ça a du bon sens. Ça a du bon sens. Mais oui, peut-être qu'un jour, on aura accès à toutes ces informations-là, Ben. Puis juste pour te rappeler, je pense que je vous l'avais dit sur les ondes de Truck Stop Québec, là, pour ce qui est de la fameuse taxe kilométrique là, que le gouvernement réfléchissait, bon, pour que ce soit pour les camionneurs ou encore pour les automobilistes. François Legault avait décidé de reculer sur cette taxe kilométrique-là, mais j'ai l'impression que les groupes de pression puis les woke vont dire « Non, taxe kilométrique, ça a bien du bon sens. » Juste pour rassurer les auditeurs qui nous écoutent, là, ça serait Éric Kerr qui serait responsable de trouver la technologie qui ferait en sorte qu'on serait capable de vous suivre du point A au point B à chaque fois que vous prenez votre véhicule. Donc, rassurez-vous, chers Québécois, c'est Éric Kerr qui serait responsable de ça, ce qui fait en sorte que la taxe kilométrique, on ne l'aura pas avant 2123, je pense, ou 2124.
Ah, mais Yannick, mettons qu'on change, là, tu sais. On sort deux minutes du domaine du camionnage et que tu décides de, une fin de semaine de partir et d'aller en moto, ne serait-ce que à Boston, tiens, c'est une belle ville, c'est pas trop loin de Québec, ça se fait super bien en moto. Est-ce que Kerr va décider qu'il peut te facturer une taxe kilométrique parce que tu es parti en voyage et que tu as décidé d'aller aux États-Unis? Est-ce que il y aurait une juridiction qui permettrait d'aller chercher une taxe aux États-Unis? Moi, je pense que, puis tu sais, quand tu dis Legault a freiné son ardeur envers la taxe kilométrique dans le camionnage, un gouvernement qui nous a promis un troisième lien puis qui a flanché en dernière minute sous d'autres prétextes, est-ce qu'on peut croire que ce gouvernement-là irait jusqu'à ne pas imposer une taxe kilométrique pour l'industrie du camionnage? Permets-moi d'en douter, OK?
Ah, oh, c'est clair. Ben oui, je sais, mais puis tu sais, ceux qui travaillent sur la route. Mais moi, ça m'a inquiété, la fameuse taxe kilométrique, parce que tu sais, j'ai toujours le goût de retourner en campagne là où j'étais. Tu sais, j'avais une petite maison sur le bord de l'eau, puis j'étais très heureux là. J'étais avec ma famille et tout ça. Puis quand je me suis séparé, ben j'ai laissé cette petite maison là qui était mon rêve pour que mes gars puissent vivre un peu mon rêve à moi, c'est-à-dire grandir, vivre aux abords d'un lac. Tu sais, puis dans les prochaines années, je vais y retourner. C'est clair et net que je vais retourner dans un modèle, tu sais, avec une petite maison, pas trop grosse, mais avec un lac à côté, puis c'est ce que je rêve. Mais avec la taxe kilométrique, ben, tu remets un peu les choses en question en disant, hey, c'est pas vrai que ça va me coûter 3-4 000 piastres de plus par année parce que je décide d'aller voir, tu sais, d'avoir une vie que je désire.
Ouais, puis sans compter le fait que, rendu à ce moment-là, est-ce que tu auras une forme de véhicule hybride où tu auras peut-être un peu d'essence à mettre dedans, mais cette semaine, on parlait avec un camionneur qui est de la France. Sais-tu à combien s'élève le coût du litre de carburant ordinaire en France? Un litre ici qui coûte peut-être 1,75, mettons, en moyenne. Je sais qu'il y en a plus haut, il y en a plus bas, là, mais 1,75, 1,80 le litre. Là-bas, on est à 2,85 le litre. Fait que quand un Français veut faire le tour de la France en vacances, lui, il paye solide les frais de carburant et tout ça. Puis il me disait, personne ne veut payer ce prix-là, mais on est obligé parce qu'on a un gouvernement qui a plié à des groupes de pression, qui a plié à des environnementalistes. Puis imagine que les denrées en France là, coûtent aussi une fortune parce que l'industrie du camionnage n'y épargne pas. Ce qu'on appelle le gasoil en France, ben c'est le diesel ici. Ben, il est aussi cher parce que là-bas, ben on le maintient à peu près au même prix que le carburant. Puis je trouve ça désastreux, OK? Parce que je suis pas certain que l'industrie du camionnage représente 95% des émissions de gaz carbonique ou des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Oui, on a quand même une bonne part, mais je suis pas sûr que c'est autant que ça. Pourquoi? Parce que en 2001, quand je suis entré dans l'industrie du camionnage, on pouvait dire qu'un camion consommait à peu près, ben, on faisait à peu près 6 000 au gallon. C'était énergivore au maximum. On payait l'essence, ben, le carburant diesel, moins cher. Bon, aujourd'hui, là, pour avoir fait une ride en Californie, aller-retour, étant chargé quelque part comme 30-35 000 livres pour l'aller, puis le retour 35-40 000 livres, j'ai fait 26 litres pardon, aux 100 km. Il y a des camionnettes au Québec, des pick-up qui consomment ça en tirant des espèces de fifouilles et tout ça. Fait que c'est faux de croire que notre industrie est bien énergivore. On a les camions très aérodynamiques. On s'est installé des jupes latérales en dessous des remorques avec une belle publicité. Venez travailler chez nous, venez faire ci, venez faire ça. Ou on prépare votre futur, tout ça. Est-ce qu'on peut en dire autant de tous les autres véhicules? Oui, OK. Un pick-up diesel qui roule peut-être 8 litres au 100. Ben, avant, j'en avais un à essence qui me coûtait 13-14 litres au 100. Bon, j'ai réduit peut-être mon empreinte, mais faut arrêter peut-être de commencer à faire de l'anxiété au niveau de ça.
Oui.
C'est sûr qu'il faut peut-être penser au futur, aux générations futures, mais qu'on prouve que les véhicules à batterie et qu'on prouve que l'hydrogène, parce que c'est supposément un des carburants futurs pour notre industrie, qu'on prouve que c'est moins dur sur l'environnement de la fabrication au site d'enfouissement quand j'en voudrais plus versus peut-être un véhicule à essence ou un véhicule diesel. Puis il m'a peut-être changé mon fusil d'épaule.
Ouais.
Je disais, oui, mais il est anti. Hein? Non, je sais. Je ne voudrais pas une pinte d'huile à terre juste pour vider une pinte d'huile à terre.
Les gouvernements,
je ne ferais pas exprès de sacrer toute l'évidence par les châssis en roulant. Puis je ne ferais pas exprès non plus de faire virer mon véhicule
exact.
Pendant une nuit de temps quand il fait 12 degrés dehors. j'en ai pas besoin. Mais on s'entend sur une chose, c'est que là, on a des gens qui se, ils ne connaissent pas les tenants et aboutissants de notre industrie, mais qui veulent nous en imposer. Puis c'est ça qui est, c'est là où ce que le peuple. Assassinez-vous avec toutes les associations,
ouais,
et trouver un terrain d'entente, tout le monde va y gagner.
Exact, exact. Tu sais, plutôt que de tout le temps mettre la pression sur le citoyen puis le travailleur, là, faudrait que le gouvernement, ouais, s'assoie avec l'industrie, que ce soit les constructeurs d'automobiles ou encore de camions, qu'on s'entende pour dire, regardez, nous, on est prêts à investir dans la recherche et le développement pour que vous ayez le moteur le moins énergivore possible. Puis le moins polluant possible, qu'est-ce que ça vous prend? Puis mettre les choses en place pour que les constructeurs puissent s'établir pour plusieurs années, puis faire de la recherche et développement qui va faire en sorte qu'en bout de ligne, la consommation va diminuer de plus en plus jusqu'à temps que, ben regarde, ça consomme pratiquement à rien, puis ça continue d'avancer quand même. T'sais. L'espoir est là. Hey Ben, je rappelle aux auditeurs qu'on est avec Benoît Therrien de Truck Stop Québec. Je dois faire une courte pause. On revient tout de suite après la pause. Restez là.
Marceau, le soir. Boulevard.
102.1.
Boulevard, fier de vous présenter le nouveau rock.
Guns N' Roses, perhaps.
Consultez notre sélection musicale et votez pour les nouveautés et les radars au blvd.fm ou sur l'application mobile.
Marceau Soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, deux adresses pour vous servir, boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis. Marceau Soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, deux adresses pour vous servir, boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis.
T'as le goût de partir en Californie? Viens faire un tour au Santa Cruz, sur la route de l'église, notre Sunset Boulevard de Québec. Pour un 5 à 7 sur terrasse couverte ou un déjeuner du week-end, viens festoyer au Santa Cruz. Réserve sur la page Facebook du Santa Cruz.
Les 30 septembre et 1er octobre prochains, c'est le Marathon Bénéva de Québec. Vous habitez près du parcours où vous voulez encourager les coureurs? Prévoyez vos déplacements. Consultez le ville.quebec.qc.ca/marathon pour tous les détails. Un message de la Ville de Québec.
Chez Toyota, on construit des véhicules de qualité en pensant à vous. Mais c'est pas comme si on pensait constamment à vous. Non, ça, ce serait bizarre. On sait juste que votre 9 à 5 est aussi précieux que votre 5 à 9. Et qu'à bord du RAV4, le VUS le plus vendu au pays, vous pouvez profiter des deux à fond. Quand c'est le temps de profiter de la vie, c'est l'heure Toyota. Découvrez le RAV4 chez votre concessionnaire Toyota et voyez nos offres sur achetezmatoyota.ca.
Saisissez votre chance chez lavue.ca. Examen de la vue remboursé. Faites-le chez lavue.ca ou ailleurs. Il sera crédité sur des lunettes complètes. Du jamais vu. Valide à Beauport, Sainte-Foy et Fleur-de-Lys jusqu'au 1er octobre. Réservez maintenant. Détails sur place. Véronique Michaud, opticienne.
Y'a mouillé tout l'été puis t'as pas fini ton patio? Avec l'Imaco, t'as plus de défaites. Du 7 pour ton patio, du 7 pour ta pergola, du 7 pour tes clôtures. Durable à prix compétitif, vendu par des spécialistes avec près de 30 ans d'expérience.
Finis-le ton patio! Limaco.ca.
Terrasse sur le toit, lounge, cour et stationnement intérieur, gym, c'est pas du rêve, mais bien quartier et ses appartements locatifs prêts pour occupation dès juillet 2024. Plusieurs unités disponibles allant de studio à maison de ville. Ça te plaît? Détail au quartier-quartier.ca.
En septembre, chez Pièces d'auto économique, profitez de 20 % de rabais sur les plaquettes Tech et Bremson. De plus, obtenez 20 % sur les filtres Fram et Pure. De grandes marques, des pièces neuves garanties, 8 magasins et un site transactionnel. Pièceéconomique.com.
Boulevard 102, 100 % Québec. On vit pour le rock. Boulevard.
Une propriété. Une propriété Leclerc Communication.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Je vous rappelle que ce soir, on a le plaisir d'être avec Benoît Therrien de Truck Stop Québec. Ben, est-ce que tu es toujours là? Tu es au bout du fil, mon ami?
Oui, je suis avec vous.
Oui, ben c'est ça. Juste rappeler aux auditeurs que tu avais une journée endiablée aujourd'hui et en tant qu'homme d'affaires.
Tu pouvais pas rater toutes les occasions que tu avais aujourd'hui. Puis, ben, t'as choisi quand même de nous donner une entrevue ce soir. Je te remercie, Ben.
Oui, effectivement, mais parce qu'il y a des journées qui sont plus rough que d'autres. Puis, on a parlé avant la pause de la taxe kilométrique.
Oui.
Mais comment pourrait-on coûter? Mon pick-up est rendu à la fin octobre. Il va avoir un an. J'ai 54 000 kilomètres de virée déjà.
Wow.
Donc, 54 000 mêlés à une scène.
Oui. Ah non, c'est...
Ça serait déjà trop cher.
Exact, ça serait déjà trop cher. Hey Ben, puisqu'on jase avec nos camionneurs et camionneuses du Québec, les auditeurs qui aiment bien entendre parler du transport, le plus gros truck stop, que ce soit au Québec, au Canada ou aux États-Unis que tu as vu puis que tu as trouvé franchement intéressant, il se situe à quel endroit?
C'est une maudite bonne question, Yann, parce que il y a plusieurs endroits où tu te dis « wow ». C'est immense. Les vacanciers québécois, canadiens qui vont vers le sud, des fois disent « Hey, je suis arrivé d'un truck stop, c'était immense. » Il y avait peut-être comme, je sais pas moi, 70 camions du soir de stationner. Puis moi, je vous parle de l'Iowa 80, qui est en Iowa, à l'entrée, mettons, de l'Iowa. Et c'est un endroit qui a plus de 800 espaces de stationnement. Il y a des... Il a été longtemps où était renommé l'Iowa 80 pour avoir le plus long port à salade. Port à salade et camionnage, moi, je trouve que ça fait pas ensemble. Si on avait mis port à friture et camionnage, ça aurait mieux vidé. Mais là-bas, t'as un bone shop, t'as, écoute, t'as des douches, t'as même un salon de coiffeur. T'as, dans le temps, il y avait des cinémas. Il y a adjacent à ça, là, pas tellement. Coupe de pied à côté, tu as un musée du camionnage aussi qui est où tout le monde peut aller visiter. Puis juste le fait que les auditeurs de Boulevard, à un moment donné, disent « Est-ce que je peux aller manger, moi, dans un truck stop? » Je vous invite à le faire. Pourquoi? Parce que souvent, ben, vous allez avoir un choix. Quand il reste les restaurants, disons, un peu plus familial d'un truck stop, quand c'est des franchises, ça reste des franchises, c'est du fast-food. Mais tu vas aller manger là, des mets typiquement camionneurs avec un peu de graisse, effectivement. Mais vous allez manger, si vous allez dans le Vermont, là, je pense qu'il existe 17, si je ne me trompe pas, au sud de Saint-Johnsbury. Arrêtez, c'est Wells, River Wells.
Ouais.
C'est un truck stop qui s'appelle PEH. Puis vous allez, on dirait qu'on fait tout sur place à ce truck stop-là. Et vous pouvez acheter des pains faits sur place, des pains aux raisins faits sur place. Après avoir soupé de même, là, vous avez peut-être moins faim, mais quand vous passerez là, à un moment donné, pensez à Yann, qui pourrait peut-être être intéressé par un pain aux raisins, mais tout ce qui est fait là-bas est fait sur place. C'est très rare qu'un camion de livraison de nourriture qui va là. Pourquoi? Parce que ben, on est spécialisé dans la bouffe maison. Puis l'Iowa 80, là, ben c'est un endroit mythique. Pourquoi? Parce qu'à chaque année, il y a ce qu'on appelle une jamboree. On fait une espèce de show and shine à travers l'Amérique du Nord. Tout le monde va là pour se rencontrer, faire des belles rencontres aussi, puis voir aussi à quel point que certains ont la touche vraiment incroyable pour mettre du chrome sur un camion et de partir avec un vieux camion puis de le rendre tellement attrayant par des dizaines de milliers de dollars de chrome dessus, puis de design, de peinture. Fait que c'est un endroit que, si vous allez, mettons, vers l'ouest, peut-être des gens qui vont partir bientôt vers la Californie pour aller passer l'hiver, ben arrêtez à l'Iowa 80, puis allez voir ça. Puis si vous êtes peut-être plus floridien, le pendant de l'Iowa 80 est le Kenley. C'est aux alentours de la sortie 102-104 en Caroline du Nord. Et on a, c'est un petit cousin, c'est probablement le même portefeuille que l'Iowa 80. Il y a un camion à l'intérieur, il y a du chrome, tant que vous en voulez. Puis Yann, je te le dis tout de suite, là, fais pas le saut, mais tu sais, on parle de toilettes non genrées, mix ou whatever depuis un petit
coup. Ouais.
Mais au Kenley. Au Kenley 95, il y a cette espèce de bidule, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, pour les femmes qui arrêtent en bordure de route, qui ont une envie d'uriner rapide, ben, c'est ce bidule-là qui sert à ce qu'elles puissent faire ça debout et sans éclabousser tout ce qui est autour d'elles. Fait que j'ai trouvé ça pour la première fois là, j'en revenais pas, je dis ça existe pour de vrai.
Ouais.
Je pensais que ça existait seulement sur les réseaux sociaux, mais il y en a à vendre là de disponibles. Je sais pas si ça se lave, je veux pas le savoir, mais au minimum, ça permet à vous, mesdames, de pouvoir faire ça debout, contre un arbre ou entre deux portières d'auto ouvertes. Ouais. Au minimum, vous allez peut-être être capable d'avoir au moins pas les yeux jaunes pendant quelques minutes.
Je m'explique mal pourquoi toi t'en as acheté un, mais écoute, on est en 2023. Qui je suis pour te juger, Benoît Terrier? Hein? Hey, dossier qui nous met un peu en colère, mais on n'a pas le choix d'en jaser. Il y a de ça quelques jours, il y a un coroner qui a rendu son rapport public sur la famille Asselin qui rentrait chez eux à Adstock et qui ont eu une collision avec un camion, avec une école de camionnage. Donc, c'est le centre de transport de Charlebourg avec à son bord 5 étudiants. On était sur la route 112. Puis, quand l'accident est arrivé, bon, il y avait des enfants qui étaient décédés là-dedans. Il y avait un homme qui était décédé aussi. Les gens étaient fessés de ça. Mais en même temps, moi, je me souviens d'avoir jasé de ça. Et si je ne me trompe pas, je pense que c'était avec vous autres. Puis, on soupçonnait qu'il y a eu un coup de volant qui s'était donné. Et pour avoir eu un retour de cette fameuse citation-là que j'avais fait, la famille était très en colère en disant « Non, cet homme-là n'aurait jamais fait ça. Jamais. Qui êtes-vous pour juger du geste du conducteur? Vous n'avez pas les preuves. Vous n'avez pas les preuves. » Puis je comprends très bien cette famille-là d'être fâchée après les médias qui rapportent ce type d'informations-là puis qui émet certaines hypothèses. Mais là, le rapport du coroner est tombé. Effectivement, le père a donné un coup de volant puis il a gâché la vie de bien du monde là-dedans.
Ouais, effectivement. Geste volontaire, nos sympathies aux familles qui ont subi cette histoire-là. Puis, tu sais, on le dira jamais assez souvent. Dans notre industrie, on appelle ça un suicide by drug. C'est quelqu'un qui va se jeter devant un véhicule intentionnellement pour y perdre la vie, en emportant ou non le reste des membres dans le véhicule. Je trouve ça tellement déplorable parce que, bon, là, moi aussi, quand j'en avais parlé, il y avait des gens qui disaient « Ouais, mais je le connais, le conducteur du véhicule, jamais il aurait fait ça pour tout ça. » Bon, le coroner a fait son enquête. Il s'agirait peut-être de mettre la main sur le rapport pour voir comment est-ce qu'il en est venu à cette conclusion-là. C'est-tu les survivants de l'auto qui auraient dit, ben, il a dit très clairement qu'il voulait mettre un terme à sa vie, puis il a donné un coup de roue, puis il est mort des pauvres personnes là-dedans. Ceci étant dit, c'est que le professeur du CFTR et l'élève n'ont jamais été capables de reprendre la route à ce jour.
Ah,
c'est là où je trouve ça lamentable, déplorable. Pourquoi? Parce que probablement que la personne qui était au volant, l'élève qui était au volant, avait une belle carrière qui se dessinait devant lui. Puis le prof, lui, ben, tout le monde qui a vécu un suicide by drug, qui ont vu ça ou subi ça, ils ont toutes la même réaction. J'ai vu le regard dans la personne qui est rentrée dans mon camion à 100 km/h, 80 km/h et tout ça. Puis le problème, c'est de ne pas effacer ça même. T'sais, on a beau être des fois des gars puis des filles bien forts, mais ça ne s'enlève pas de notre mémoire. On n'est pas capable de dire on reset, on reboot le cerveau, puis c'est effacé. Ça va nous rester ça jusqu'à la fin de nos temps dans notre mémoire, puis des cauchemars par la suite. Si le professeur n'a pas été en mesure de reprendre la route, lui qui a probablement beaucoup d'expérience, c'est parce que lui, il a probablement un traumatisme. Puis il existe un organisme actuellement dans notre communauté de camionneurs qui s'appelle SSPT chez les camionneurs, c'est syndrome de stress post-traumatique.
Mm-hmm.
C'est un organisme sans but lucratif qui aide les gens qui auraient subi un choc post-traumatique après un accident, tout ça. Puis, j'invite les gens des fois à aller chercher de l'aide. les autres en danger quand c'est un automobiliste qui veut mettre fin à ses jours. Il y a des lignes d'aide. Il y a plein de façons de vous en sortir. J'essaie de vous vendre l'idée que si vous brisez ou brûlez la vie de pauvres camionneurs, c'est plate, mais c'est parce que votre geste implique trop de temps. Êtes-vous capable des fois de... je vais contacter un 800, j'écoute, ou un 800, et toutes les lignes de suite. Puis peut-être que quelqu'un va m'aider. Puis ça va peut-être vous faire réfléchir que ben si vous scrapez, puis le terme est faible, là, si vous scrapez la vie d'autres personnes, ben votre geste, là, tu sais, il est plate, là, mais en plus, vous scrapez d'autres vies. Fait que moi, je pense que, tu sais, personnellement, là, faites donc un appel. Faites-moi plaisir aujourd'hui. Faites un appel. Contactez des gens qui vont vous aider à y voir plus clair. Puis souvent, là, quand on est rendu proche, peut-être de faire un geste comme ça, si on avait fait un coup de téléphone, on aurait été écouté. On n'aurait pas besoin de se rendre à ce geste-là parce qu'il y a toujours une solution à un problème quelconque. Puis il y a toujours une façon de s'en sortir sans être nécessairement jugé.
Ouais, ce qu'on dit dans le milieu, Ben, c'est que pour les gens qui pensent au suicide, là, le suicide, c'est une solution définitive à des problèmes qui sont temporaires. Puis effectivement, il y a des ressources qui sont là. 1-866 appel, puis sinon, ben, jaser avec vos proches ou encore un ami. Là. Mais bref, le rapport du coroner est sorti, puis malheureusement, ça a confirmé nos hypothèses. Là. C'était un geste volontaire de la part du père qui a tué ses enfants. Quelques occupants ont réussi à s'en sortir. Puis pour ce qui est des gens qui étaient à l'intérieur du camion, donc des étudiants du Centre de formation en transport de Charlebourg, on a 5 personnes de plus qui sont aussi traumatisées à vie de la décision du père de famille qui a décidé de faire ça. Cela dit, Ben, pour les gens qui veulent entendre parler de transport, pour les gens qui veulent en savoir plus sur Truck Stop Québec, on vous rejoint de quelle façon?
Ben, c'est simple, Facebook, vous recherchez Truck Stop Québec, il y a une page, il y a un groupe, truckstopquebec.com, ben, il y a de l'information, des jobs et puis plein d'affaires. Et une fois de temps en temps, sur Boulevard, vous nous entendez. Puis tous les lundis, je vous invite à venir entendre Marceau entre 16h et 18h sur Truck Stop Québec.
Moi, je change de rôle, hein? Là, je suis l'interviewé, c'est moi qui donne mon opinion.
Oui, c'est ça. Puis c'est toujours le fun d'avoir de l'opinion extérieure. Pourquoi? Parce que dans notre industrie, c'est pas parce qu'on est camionneur qu'on n'est pas friand d'actualité. On passe nos journées à écouter podcasts, radio, puis informations. Fait qu'on a de l'opinion sur tout. Puis c'est pas vrai qu'on est des chialeux. On est des bougonneux.
C'est ça. Puis là, je m'adresse aux camionneurs et camionneuses du Québec. Là, quand vous roulez côte à côte là, sur l'autoroute là, à 104, 105 km/h à vous faire des babayes, là, ben nous autres, on est en arrière. Puis tout ce qu'on rêve, c'est que vous vous tassiez sur la voie du centre pour nous laisser passer. Tassez-vous!
Non, mais si vous voyez Marceau, vous pouvez le faire. Mais tous les autres, isolés de la route, essayez de dépasser. Puis celui qui est à droite, fait juste enlever, parce que souvent, ils sont sur le cruise control. Fais juste enlever une coche du cruise control, puis tu vas être capable d'arriver pareil 30 secondes plus tard à ton terminal ou à ta livraison, puis tout le monde va être heureux.
Salut Truck Stop Québec, on vous aime.
Bye-bye.
Salut, bye-bye. C'était Benoît Terrien de Truck Stop Québec. Je vous laisse là-dessus, on s'en jase demain à 11h sans faute. Restez à l'antenne puisque les podcasts s'en viennent dans les prochaines secondes. Puis j'aurai le plaisir d'être avec vous à partir de 11h demain avec Pascal CV ainsi que Thomas qui seront présents pour Marceau le midi. Salut, bye-bye.
Marceau le soir.
Marceau le soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, 2 adresses pour vous servir, boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis.
Vous aimeriez obtenir votre pardon au waiver, mais c'est difficile financièrement? Aucun souci. Identité Québec offre le financement 12 mois sans intérêt. IdentitéQuébec.ca. Votre dossier, notre spécialité.
Faut qu'on parle. J'ai l'impression que je t'intéresse plus. Quand on est ensemble, tu regardes ailleurs. Tout semble plus intéressant que moi. Je le sais que je suis plate, là. Je le sais que tu veux garder tes vieilles habitudes. Mais j'aimerais ça sentir que tu me regardes, que t'es concentré sur moi. J'aimerais sentir que j'ai toute ton attention. Sinon, tu pourras avoir un accident.
La route a besoin que vous soyez concentré.
Au volant, portez toute votre attention sur la route. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
Le complexe du Phoenix t'invite à ses nuits folles. Des chansonniers mettent le party en place jusqu'à la fermeture, 7 soirs sur 7. Et pour une nuit encore plus folle, viens danser à la discothèque Midnight Blue du jeudi au samedi. Les nuits folles du complexe du Phoenix. Méville, ce sont vos spécialistes en climatisation, chauffage et thermopompe depuis plus de 55 ans. En ce moment, obtenez jusqu'à 1000 $ de rabais à l'achat d'une thermopompe Fujitsu. Que ce soit pour une thermopompe murale ou centrale, Fujitsu fabrique les thermopompes les plus efficaces sur le marché. De plus, obtenez jusqu'à 6275 $ de subvention et un prêt sur 10 ans sans intérêt avec Maison Verte. Certaines conditions s'appliquent. Méville, le leader au Québec en climatisation et chauffage. Méville.ca.
Pour joindre la gang en ondes par téléphone, 780-1021, texto 971-1021.
Boulevard 1021.
Simard Cuisine et Salle de bain aménage l'espace de vie des gens d'ici depuis 55 ans. Simard est fier d'offrir une conception de qualité personnalisée et ce pour tous les budgets. Grâce aux dernières technologies, vous visiterez votre future cuisine Simard en réalité virtuelle, vous permettant de faire les meilleurs choix pour votre investissement. De plus, profitez des meilleurs prix de l'année grâce à des rabais de 1000 à 3000 $ pour tout projet de cuisine installé entre le 1er janvier et le 30 avril. Venez voir l'équipe Simard au 325 rue
Podcast. OK, les filles, je suis prêt pour le podcast.
OK, parfait. Ça va parler de quoi?
Ben, on se racontait des affaires, on va...
Denis, ça va parler de quoi?
Je sais pas, de tout, de rien. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est le fun. On saute dans le vide. Sauter avec nous autres.
Gravel dans le retour, le podcast. Une production Boulevard 102.1. À écouter en ondes tous les mercredis dès 19h et sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube et le BLVD.fm.
Une présentation d'accommodation Chaloux. Avec plus de 1000 sortes de bières de microbrasserie et de grandes marques, c'est chez eux que vous trouverez le plus grand choix au meilleur prix. Saint-Émile, Beauport et au Grand Marché de Québec. Accommodationchaloux.com.
Une semaine gratuite d'essai pour vivre l'expérience du plus beau club sportif familial à Québec. Découvrez ce qui fait le succès du club Avantage Multisport. Gym, workout, yoga, spinning, tennis, badminton, même la garderie est gratuite.
Détails à clubavantage.ca.
C'est bien connu. Québec, Rock City. On est une ville de rock.
Boulevard 102, sur les plaines, au centre Vidéotron ou dans votre char.
Quand ça se passe à Québec, ça se passe à Boulevard 102.1.
Boulevard 102.1. Votre partner de show.
Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode du Roadcast Boulevard 102.1 qui risque de vous charmer par son honnêteté. On va parler des représentants dans le domaine de l'automobile. Est-ce que c'est encore une profession qui fonctionne bien? Est-ce payant être représentant aux ventes dans une entreprise ou dans un concessionnaire? On fait le tour de la réalité aussi aujourd'hui avec les fameuses pénuries de véhicules et tout ce qui s'est passé avec la production des véhicules. Est-ce que c'est encore un emploi le fun? T'sais, il y a eu des bonnes années de ça. Puis comment ça se marche aujourd'hui cette affaire-là? Et on va parler avec un conseiller aux ventes qui s'appelle Félix Gagnon, qui lui travaille dans le domaine. Il va nous parler un peu de sa réalité, de comment ça se passe, c'est quoi les pressions qu'il y a ici et là, puis c'est quoi aujourd'hui vendre un véhicule. Ça s'est transformé, l'Internet prend beaucoup de plus en plus de place dans la transaction et lui est là maintenant pour nous en parler et voir un peu sa réalité. En plus, ça tombe bien, Félix est représentant chez Volkswagen et ça me fait une belle passe à la palette pour vous dire à quel point je veux remercier nos amis de Volkswagen Saint-Nicolas d'avoir cru en ce beau projet-là. Volkswagen Saint-Nicolas, c'est les spécialistes Volkswagen dans la région de Québec. Vous avez besoin d'un véhicule, vous voulez faire de l'entretien, des accessoires Volkswagen également. C'est une équipe qui est prête à vous recevoir. On a une équipe de conseillers toujours à votre écoute qui peuvent tant s'occuper de vous dans l'achat d'un véhicule neuf, qui peuvent aussi s'occuper de vous dans l'achat d'un véhicule usagé. Donc, vous n'avez pas besoin de passer par deux ou trois représentants différents quand vous passez chez Volkswagen Saint-Nicolas. Vous allez trouver la personne de confiance avec qui vous voulez travailler et cette personne-là va vous aider à trouver le bon produit. Vous êtes à la recherche d'un Volkswagen, bien c'est sûr que je vais vous encourager d'aller voir l'équipe de Volkswagen Saint-Nicolas. Bonne écoute!
Le Roadcast Boulevard 102 avec Samuel Tremblay-Michaud.
une présentation de Volkswagen Saint-Nicolas, votre concessionnaire de confiance sur la Rive-Sud. Ça clique avec Saint-Nic.
Aujourd'hui, je pense qu'on va parler d'un sujet qui va rejoindre beaucoup de personnes parce qu'on a tous probablement vécu une expérience dans un concessionnaire automobile. Et je vais parler avec un conseiller aux ventes dans le domaine de l'automobile. Un conseiller qui n'avait pas nécessairement le parcours de base de devenir un conseiller, mais qui aujourd'hui, c'est devenu sa passion. Et je trouvais ça super intéressant de voir avec lui un peu c'est qui le profil de personne qui pourrait faire ce genre de métier-là. Et c'est qui aussi, c'est quoi aujourd'hui la situation dans les concessionnaires? On a vécu plein de pandémies, vous devez connaître ça un peu, et on a vécu plein de problèmes dans les concessionnaires, dans les approvisionnements de voitures également. Donc là, le but, c'est de savoir où on est rendu en page d'aujourd'hui avec les concessionnaires. Donc, mon invité du jour est Félix Gagnon. Bonjour, Félix.
Salut, Sam. Salut, salut.
Donc, j'ai comme introduit ça assez rapidement et assez brusquement, mais j'ai juste dit, toi, t'étais pas à la base un gars censé faire ça.
Non, ben écoute, je pense que la meilleure façon de te le résumer en une petite phrase toute cuite, c'est moi, je suis pas tant un gars de char.
OK.
Mais je suis un gars d'humain.
OK.
Et à ce niveau-là, ben c'est vraiment un heureux accident qui m'a amené dans la vente automobile. Mais ça va faire bientôt 3 ans donc, que je suis dans le milieu. Puis plus que j'en fais, puis plus que je trippe, parce que vraiment, c'est une job qui est extrêmement humaine.
Puis à la base, tu disais que tu n'étais pas un gars de char. Comment tu fais pour être dans un concessionnaire?
Ben parce que vraiment, c'est 100% la démarche de service. Puis je pense que c'est la première qualité d'un vendeur, c'est d'avoir l'âme d'un serviteur un peu dans une certaine optique. Parce que ben, dans une vie adulte, c'est pas mal la deuxième plus grosse financière que les gens vont prendre généralement.
Oui.
Et ça demande certainement un haut niveau de service conseil. Et surtout parce que ben, même dans l'ère de l'information que l'on vit aujourd'hui, oui, les gens ont accès à toute info pour se renseigner, faire leur magasinage eux-mêmes, mais règle générale, des fois, vont peut-être même juste se dérenseigner plus qu'autre chose.
Ouais.
Et c'est là que, ben, justement, surtout quand on parle de la réalité en concession aujourd'hui, ben, y a des gens que, oui, ça fait 20 ou 30 ans qu'ils s'achètent des voitures, mais ils font le saut quand ils arrivent dans mon bureau aujourd'hui parce que ce n'est pas du tout le même genre de démarche d'achat. Là où ben, beaucoup étaient habitués, par exemple, à faire la décision le jour même ou dans la même semaine repartir avec leur nouveau véhicule, aujourd'hui, c'est maintenant exceptionnel. Cas-là. Donc, ça demande certainement plus de services conseils que jamais et ça a toujours été ce qui m'a fait triper un peu le service.
Et ça, écoute, on va couvrir ce sujet-là de comment ça se passe maintenant parce que, tu sais, bien sûr, on sait que l'automobile a vécu beaucoup de chamboulements avec les dernières années. Je suis très curieux de voir un peu, toi, au quotidien, comment ça se passe. Mais avant toute chose, tu sais, tu me disais, tu es un gars d'humain, tu es un gars qui a découvert ce côté-là de service, mais tu sais, on se connaît, on peut le dire, là, on se connaît, on est des amis à la base. Et moi, je te connais depuis longtemps, puis je me disais, mais non, Félix, représentant, conseiller, je pensais pas.
Ben, c'est comme une surprise. C'est ça, comme on se connaît depuis déjà quoi, secondaire 2-3.
Ça fait un petit bout qu'on se connaît.
Via l'improvisation, puis ensuite les études en communication qu'on a tous les deux fait à Jonquière. Donc, c'est ça, tu sais, j'ai effectivement un background de gars de scène, de gars de communication. C'est sûr que c'est pas nécessairement quelque chose que j'ai jamais pensé à un certain point dans mon adolescence ou même ma jeune vie adulte, je vais devenir conseiller auto. Moi aussi, c'était un espèce d'heureux accident qui a découlé de la pandémie, puis qui a découlé justement toute l'espèce d'arrêt que cette première vague de confinement nous a tous forcés à prendre.
Ouais.
Moi, ça m'a un peu aussi juste amené... c'est sûr, moi, je travaille en région, à Rivière-du-Loup, dans un concessionnaire Volkswagen. Et c'est aussi, je te dirais, tout le projet de revenir en région. J'habitais à Montréal. J'étais, dans le fond, après mes études en communication, j'ai travaillé principalement en représentation, mais surtout dans le secteur événementiel, où j'aidais, en fait, des producteurs d'événements à vendre leurs événements, que ce soit à des fournisseurs, à des vendeurs, peu importe. C'était principalement des shows culinaires. Fait qu'en fait, je vendais des kiosques là, à des restaurateurs, si tu veux.
Puis l'événementiel avec la pandémie, ça a dû ralentir pendant...
Ben voilà. Fait que moi, en un bel après-midi du mois de mars 2020, mon été était pas mal booké de contrats, etc. Puis je travaillais dans un bar également à Montréal pendant la saison hivernale pour pallier un peu les deux. Que ce soit le bar ou les contrats d'événementiel se sont volatilisés en un seul après-midi. Et après 48 heures à Montréal, à pas trop savoir qu'est-ce qui allait se passer. Ben, j'ai eu la chance, en fait, de retourner au Bas-Saint-Laurent dans une vieille maison familiale qui est toujours dans la famille. Puis c'est, en fait, carrément cette première vague de confinement, 4 mois parquée devant le fleuve Saint-Laurent, mais... qui m'a fait, ben, sais-tu quoi, je pense que je suis prêt à laisser tomber la grande ville, puis vraiment trouver une job de région qui va me permettre de me rapprocher un peu de...
Côté communication, parce que tu as quand même le background de communication, puis c'est un peu là que je veux qu'on élabore ensemble, c'est que tu sais, le profil de personne que tu es pouvait te permettre de faire aussi ce genre de profession-là, parce qu'on s'entend d'être un conseiller, il faut être habile avec le public, il faut être habile en communication à la base.
Faut être habile à expliquer, ça c'est certain.
À expliquer, puis la pandémie a chamboulé beaucoup de gens dont toi tu me parles, tu sais, retour en région, on redécouvre des nouvelles choses, puis je trouve ça le fun pour les gens qui nous écoutent, qui peut-être vivent encore les échos de ça, tu sais, l'espèce de remise en question de qu'est-ce que je peux faire dans la vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire, je suis plus sûr de ce que je fais, puis on sait que le taux d'employabilité